Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond. Avec aujourd'hui à la technique Michel Gassic et Yves Lehorse, sans oublier Didier Pousse, et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Avec une humeur post-électorale, avec un taux de participation record à plus de 80%, c'était donc hier en Iran, où il n'y a pas eu la vague verte tant espérée par Hussein Moussavi et ses partisans, rebelote pour Ahmadinejad qui fête avec ses potes nord-coréens le succès du gang du nucléaire sans frontières. Et là, je reprends l'université du désastre, donc un thème qui est cher à notre ami Paul Virilio, ici présent, Ahmadinejad, donc qui disait, en parlant de sa politique nucléaire, « C'est un train en marche qui n'a plus ni frein ni marche arrière, car nous avons tout arraché et jeté ». Vaste programme qui ne nous rassure pas forcément sur les mérites de la politique du nucléaire à tous les étages, vantée ici et là comme la solution pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors on rentre à la maison, la vague verte cette fois, eh ben elle était bien là, lundi matin, sur la photographie de la France, vue des urnes. 14 eurodéputés verts qui font de nous les champions d'Europe de la cause écologique, ex aequo avec nos amis allemands. Conséquence immédiate et tout à fait bénéfique, la France passe au niveau 6 de l'épidémie de vote écolo. On risque d'éviter le cauchemar Claude Allègre au prochain remaniement. Et nos ministres ressortent du placard la contribution climat-énergie de Nicolas Hulot, un remède qui, nous l'espérons, donnera un prix à la bonne santé du climat, des océans, des rivières, des continents, des espèces qui y vivent. Bref, à toutes ces choses qui, jusque-là, on dépensait sans compter, puisque selon les règles en vigueur dans l'économie moderne qui souffre très peu de la contestation, je vous le rappelle, tout ceci était gratuit. Alors, comme se le demande cette semaine le journal La Croix, sommes-nous désormais tous écolos ? Sommes-nous donc tous reliés à la nature, adeptes de la décroissance, du purin d'ortie, des faucheurs d'OGM, des pourfendeurs de pesticides dans nos assiettes ? Tous, non ! Quelques irréductibles lobbies résistent encore et toujours aux principes élémentaires de bonne gestion d'une terre aux ressources limitées. Bon, parmi ceux-là, on retrouve dans le monde, bien sûr, la famille. On encaisse d'abord et on se pose des questions ensuite. Les compagnies pétrolières, l'agrochimie, les télécoms et j'en passe. Mais vous avez aussi des exceptions. Et oui, Philips, par exemple, s'engage à ce qu'en 2012, un tiers de ses produits soit gentil, comme on dit, pour l'environnement dans le métier. Notez qu'ici aussi à La Rochelle, on sait être gentil avec la nature. D'ailleurs, on n'a pas attendu les dernières élections pour proposer des espaces verts sans pesticides, des bus de mer à l'énergie solaire, des voitures électriques, des vélos en libre-service, des pédibus pour emmener les enfants à pied, figurez-vous, jusqu'à l'école, oui. Et aussi, figurez-vous que dans la région, on arrive à vivre même sans circuit de Formule 1. Je me demande vraiment comment vous faites les uns les autres, c'est incroyable. Parce que cette aventure aussi à trois, eh bien, s'est nouée il y a quelques milliers d'années entre la Terre, la mer et nos ancêtres sur ces rivages qui abritent globalement les deux tiers de l'humanité. C'est donc un équilibre fragile qui vaut bien un Grenelle et on en parlera avec Isabelle Autissier. Bref, ça s'appelle ici le salon Terre et Lettres. C'est une première à La Rochelle. À partir de l'écrit, on a une réflexion sur l'écologie et le développement soutenable. C'est donc tout le week-end avec des livres, des films, des tables rondes et même une émission de radio. Alors amis des vagues vertes de l'océan, bienvenue à tous à la médiathèque de La Rochelle. Isabelle Autissier avec nous, David Beaulieu de l'association Écomer. On rejoindra Jean-Marie Pelt aussi qui d'ailleurs nous écoute depuis sa Moselle. Et puis Paul Virilio qui est urbaniste, qui est philosophe. Moi je suis ravi de rencontrer cet homme pour la première fois parce que pour le savoir c'est vraiment une véritable référence aux États-Unis. En France on en parle malheureusement beaucoup moins mais c'est une véritable référence aux États-Unis et ailleurs. Et alors vous vous définissez Paul Virilio en disant que vous êtes dromologue. Alors, j'ai appris ça, dromos ça veut dire la course en grec. Qu'est-ce que c'est un dromologue s'il vous plaît?
C'est la discipline de l'accélération, de la course, effectivement. Donc, ça fonctionne. Je rappelle qu'en Grèce, dromos, c'est la course, mais c'est l'avenue, c'est l'allée, etc. C'est le boulevard, si vous préférez. Donc, c'est une intelligence de la vitesse qui manque singulièrement. Ceci dit, c'est un compartiment de la phénoménologie. Hein. On ne peut pas être dromologue sans être phénoménologue, c'est-à-dire sans être intéressé par les phénomènes naturels et autres.
Alors vous nous dites que tous les champs de l'activité humaine sont aujourd'hui placés sous le régime de la vitesse.
Absolument. C'est le grand absent de l'économie politique. On a une économie politique de la richesse, de l'accumulation, etc., qui a fait l'histoire. Mais il se trouve que l'histoire récente s'est accélérée infiniment, jusqu'à la vitesse de la lumière, les ondes électromagnétiques. Et donc aujourd'hui, s'intéresser à l'accumulation, à l'économie, c'est s'intéresser aussi à l'accélération, à la vitesse et donc à l'écologie.
Et donc ça commençait aussi au 19e siècle, on va dire, pour faire simple.
Oui. La révolution industrielle des transports, qui a été prolongée. Donc c'était le grand mouvement. Je rappelle qu'on ne parlait pas de progrès, on parlait de grand mouvement. Ensuite, la révolution des transmissions instantanées. C'est Marconi, c'est la radio, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, maintenant, la révolution de l'instantanéité cybernétique. En attendant, la révolution des transplantations avec les puces radiofréquences, etc., etc. Donc, la vitesse est partout, y compris dans ce qu'on appelle les nanotechnologies, qui sont aussi des nanochronologies. Et ça, on ne le dit pas. Le nanomètre, c'est aussi la nanoseconde, c'est-à-dire milliardème de seconde. Donc, on va avoir à se battre avec une accélération qui n'est pas simplement celle du TGV ou de l'AGV, l'avion à grande vitesse.
Oui, parce que venir en 3 heures au lieu de 6 heures ici, c'est plutôt pas mal en TGV.
C'est
quand même
très banal, oui, voilà. Absolument. Non, mais je crois qu'on ne pourra pas continuer cette histoire. Je dis bien celle du temps long, de l'école des annales et autres, sans s'intéresser à l'instantanéité, à l'immédiateté, à l'ubiquité, qui étaient les attributs du divin, je rappelle, et qui sont les attributs du contemporain.
Mais est-ce que nous sommes vraiment, Paul Virilio, contraints de vivre en temps réel ?
C'est impossible. Hein. Comme dit Octavio Paz, l'instant est inhabitable, comme le futur.
Oui. Alors quand on parle de la vitesse, de quelle vitesse parle-t-on ? Là, on a bien compris effectivement qu'on était...
Celle de notre perception, celle de notre tempo. Oui. Hein. Nos sociétés sont des sociétés devenues arythmiques, c'est-à-dire qui ont brisé les rythmes. Les sociétés anciennes avaient des rythmes calendaires, liturgiques, musicaux, etc., etc. C'est aussi bien les danses de village qui étaient une façon de rénover les rythmes sociaux. L'accélération a fait qu'on a rompu avec ça. Ça va trop vite pour nos rythmes de vie. C'est le tempo qui est en cause. Alors tout à l'heure, vous me disiez, c'est quoi la dromologie ? J'ai répondu récemment, puisque mon maître était Vladimir Jankélévitch, c'est une musicologie. Oui, tout simplement. C'est-à-dire que les rythmes, ça fait partie de l'histoire. Les jeunes le savent. Et je dirais même que l'engouement extraordinaire en ce moment de la jeunesse pour les rythmes vient d'un manque de rythme dans les sociétés humaines.
Alors là, Paul Virilio, on prend le temps effectivement de décortiquer un peu ces concepts et votre pensée. Mais il y a quelque chose aussi que vous pointez très bien, qui est un véritable résumé, qui vient de la grande distribution. C'est le côté flux tendu et zéro stock.
C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est un slogan terrifiant. Flux tendu, stock zéro, ça veut dire que non seulement c'est la livraison juste à temps, au plus juste prix, ce qu'on nous dit, mais c'est aussi, quelque part, la mise en branle, on peut dire en branle, des populations. Flux tendu, c'est aussi le tourisme qui prend des proportions qui ne sont plus touristiques, qui sont celles d'une sorte d'exode à répétition, etc., etc. Donc, on est devant un moment de l'histoire où il va falloir changer de régime, hein, comme on dit en voiture, hein. Je rappelle que je critique la vitesse, mais j'ai une Jaguar quand même. Hein. Non, mais bon, non, mais parce que je veux dire, nul n'est pur.
Non, mais c'est bien de le dire. Non, mais alors, en même temps, vous êtes un type. Alors, vous parlez évidemment des voyages en permanence, mais vous êtes assez sédentaire. Vous-même.
Maintenant, mais ouais, j'ai beaucoup voyagé. Mon dernier voyage, c'était au Japon, avec l'ami Jean Nouvel et avec des architectes. Parce que je crois que pour analyser l'accélération qui domine l'accumulation. Oui. Parce que flux tendu, stock zéro, ça veut dire ça. Il faut être inerte, oui, entre guillemets. Et donc, vous savez aussi ce qu'on dit. Pour que la roue tourne, il faut un moyeu qui, lui, ne tourne pas. Pour l'instant, dans l'âge de la vieillesse, je suis devenu un moyeu.
Et oui, et la fin justifie les moyens, bien sûr. Alors, Paul Virilio, oui, je vous en prie. Paul Virilio, les conséquences sur l'environnement.
Elles sont terrifiantes parce que la Terre est désormais trop petite pour le progrès. Autre explication, la vitesse et la vieillesse du monde. J'ai écrit ça il y a 30 ans. Quand on vieillit, le temps passe plus vite. Ben oui, mais là, la vitesse, c'est une sénilité précoce pour nos sociétés. C'est-à-dire que même les jeunes participent de cette sénilité. Et il y a là un événement redoutable pour la réflexion, pour l'intelligence, qui demande du temps, qui demande un tempo, je dirais, humain et pas divin. C'est... Il faut s'arrêter. En ce moment, moi, je fais une assaise des nouvelles technologies. Je rappelle que j'ai plus de voiture, c'est pas si nouveau comme technologie. J'ai pas de télé, j'ai pas d'internet, j'ai pas de téléphone portable.
Vous avez la radio.
Mais j'ai l'eau, le gaz, l'électricité, la radio et un téléphone fixe.
Alors non, mais quand vous nous dites que c'est important parce que notre Terre est devenue trop petite pour le progrès, bon, parce qu'évidemment les ressources naturelles s'épuisent, c'est une chose. Et on s'en est rendu compte aussi pour le profit à court terme.
Parfait, tout à fait. La Terre est aussi trop petite et on vient de la prendre pour le profit à court terme. C'est-à-dire que dans les années 80, on a lancé ce que la Cité appelait le Big Bang, c'est-à-dire l'interconnexion des banques, le programme trading. C'est-à-dire que désormais, en temps réel, les cotations s'échangeaient d'un bord de l'Atlantique à l'autre.
Ce qui veut dire que pour vous, l'origine de la crise se pose là.
C'est 1987, c'est le premier crack informatique. C'est le crack du programme trading. Et 2007, les subprimes, à mon avis, c'est le big crunch, un big bang des années 80, big crunch du crédit. Parce que ce n'est pas simplement le big crunch, la terre qui se détruit, c'est le crédit qui manque. On n'y croit plus, il n'y a plus de confiance. Il y a une sorte de mono-athéisme des boursiers, ils n'y croient plus. Il y a un problème. Donc oui, on est arrivé là à une situation qui est une situation tout à fait nouvelle. On a fait sauter le système. Et les logiciels financiers, je discutais avec une amie qui enseigne les finances et probabilités à Polytechnique, Madame El Karoui, qui était tout à fait d'accord pour dire que la sophistication mathématique des logiciels était pour quelque chose dans ce crack. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où sont les produits toxiques. Puisqu'ils sont en vitesse.
Non, mais c'est vrai qu'on ne les a pas tous repérés.
Ils sont partout et nulle part.
Ils ne sont pas tous remontés.
Des nanochronologies, là aussi. Déjà, c'est déjà une nanochronologie.
Donc là, maintenant, c'est finance, probabilité et boule de cristal, presque.
Oui, mais je crois d'ailleurs que la science est en train de s'interroger beaucoup à cet usage intempestif et généralisé des logiciels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir au boulier, mais ça veut dire que, quelque part... La mathématisation des finances, il faudrait peut-être un peu d'intelligence là-dedans.
D'une manière générale, Paul Virilio, lorsque vous dites que la Terre est devenue trop petite pour le progrès, en revanche, elle n'est pas trop petite pour avoir un projet individuel et un projet commun.
Sûrement pas. C'est pour ça que moi je dis, je ne crois pas, contrairement à Fukuyama à la fin de l'histoire, et au dernier homme, comme dit Fukuyama, il a eu du succès avec un titre pareil, moi je crois à la fin de la géographie. La Terre est trop petite. Pourquoi ? Parce que c'est un objet céleste limité par sa tellurie, par son tellurisme. Et la vitesse de la lumière, ça va trop vite pour cette Terre qui devient tout d'un coup trop petite. On est devant un handicap. La vitesse est devenue un handicap, ce qui est fabuleux. Dans l'univers, la vitesse de la lumière, ce n'est pas un handicap. D'où les années-lumière. Sur la Terre, c'est un phénomène de contraction. Comme les douleurs de l'enfantement.
Oui, c'est beau.
Les douleurs telluriques. On va accoucher d'un autre monde. J'espère qu'il ne sera pas trop tyrannique.
C'est ça
qui m'inquiète.
C'est surtout ça. Et puis qu'il ne sera pas forcément à coup de forceps. Écoutez, un grand merci. On va poursuivre donc notre voyage avec vous, avec Isabelle Autissier et puis Jean-Marie donc Pelt qui nous écoute. On pose une petite pause avec Trio. En plus, ils font une tournée assez écologique. Ils sont très intéressants, ceux-là.
Ils n'avaient pas idée. Ils n'avaient pas conscience. À quel point lui manquaient les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui, El Dulce de Leche. Il faudra reprendre la route, devenir français. Réfugiés dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance. Une larme à Paris, une rose pour Pinochet. Le temps n'a pas enfoui le palais d'Allende. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français. Sans doute. Elle douce de l'âge, il n'avait pas idée. Mais c'est sans suffisance, on ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance, le prenant par la main. Elle a mis, on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route. Devenir français coûte que coûte. Réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute.
El Dulce de Leche sur France Inter, trio choisi par Emmanuelle Chupin, notre programmatrice, qui seront, je pense, aux Francopholies de La Rochelle avec un partenariat, yes, France Inter. Toujours en partenariat avec France Inter, un homme que vous connaissez bien qui est Jean-Marie Pelt. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous, bonjour Madame Autessier, Monsieur Virgio.
Bonjour.
Très heureux d'être parmi vous.
Ben oui, c'est
de vous. De ma Moselle natale.
Vous êtes sur votre Moselle en train de prendre le soleil.
Beau soleil.
Voilà, tel le lézard de base de la Moselle.
Voilà, et voilà, bon, beau soleil.
Et donc vous avez compris que nous volions donc haut, mais c'est ce que nous en aimons bien aussi dans cette émission avec Paul Virilio aujourd'hui.
C'était remarquable.
Oui, bon, et alors, merci comme ça, petite réaction sur les thèmes évoqués par Paul Virilio, Jean-Marie.
Ben, je pense tout à fait comme ça. Je suis aussi sous-équipé en technologie,
je oui, mais constate... pas intellectuellement. Donc.
Je ne sais pas. Je constate que le monde a plus changé entre l'époque où, petit garçon, je vivais pendant la guerre dans une ferme de l'Auvergne profonde où le mot technologie n'existait pas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, une petite charrette à âne, etc. Et puis aujourd'hui, donc, j'ai l'impression que les choses ont été plus vite depuis 1940 jusqu'aujourd'hui qu'elles l'ont été depuis le néolithique jusqu'en 1940. C'est quand même extraordinaire. Et ça, personne n'en est conscient. Et moi, je suis tout à fait conscient de cela. Je peux vraiment souligner au mot à mot ce que vient de dire M. Virilio. Je pense au symbole absolu de la vitesse qu'est le TGV. C'est très intéressant, le TGV. Le TGV, c'est aller vite. C'est le seul et unique critère qu'avait la SNCF. Pour tout le reste, c'est quand même assez mal commode, parce que si vous avez une réunion à Paris, que votre réunion est finie à 3h30 de l'après-midi et que, ne sachant pas à quelle heure elle finirait, vous avez pris un TGV à 7h du soir, vous passez des heures à attendre le TGV.
Vous n'allez pas nous faire un couplet anti-TGV quand même, cher Jean-Marc.
Oui, si, j'avais je vais le faire. Je vais le faire. Et alors, on rencontre à la gare un ami et on est tout content de faire le voyage avec lui, mais comme on a un siège qui est réservé, parce que la SNCF a pour vous une commisération extrême. Elle vous réserve un siège pour dans 2 ans et demi. Donc votre siège, vous êtes sûr de l'avoir. C'est précieux. Alors on vous met pouf sur votre siège. Le copain, il part, on ne sait pas trop où, vous ne le voyez plus. Vous avez à côté de vous la personne qui fait sa conversation sur le téléphone portable. Tout ça ne serait rien. Tout ça ne serait rien si ce système marchait bien. Mais j'ai fait 5 voyages en TGV au cours des 2 derniers mois. J'ai pas eu de peau, je crois que j'ai pas eu de peau.
Je crois que vous avez pas eu de peau.
Non, parce que, je les ai ratés tous les 5.
C'est ça.
Mais
c'est peut-être pas le TGV, c'est peut-être vous.
Non, c'est pas moi.
C'est pas moi. C'est pas d'accord.
Non, mais j'ai mis 10 heures pour la Marseille avec 2 changements de maître à Marseille. C'était extraordinaire. J'ai terminé le voyage en omnibus parce que le TGV était plein.
Donc vous avez fait du tourisme.
Et à Annecy, j'ai pris un bus parce qu'il n'y avait pas de train. Bon, c'est le problème d'un critère unique.
Voilà.
C'est ça, toute l'histoire est là. Critère unique. Il n'y a qu'un seul et unique critère, il faut aller vite. Et d'ailleurs, le projet, c'est d'avoir des TGV à 360 km à l'heure. C'est d'avoir un TGV entre Marseille et Nice, qui coûtera 12 milliards, qui fera gagner 10 à 15 minutes, qui va traverser ou la plaine des morts ou le littoral. Dans les deux cas, écologiquement, c'est hyper, hyper compliqué. Personne ne se pose cette question. Est-ce qu'il faut vraiment gagner 10 minutes entre Marseille et Nice? Certains se posent quand même, parce que quand je vais dans le midi, j'y vais très souvent. Alors là, il y a des retards de TGV tout le temps. Je vois que les journaux débattent abondamment de cette question qui devrait trancher rapidement.
Pour information, je pense qu'a priori, ce serait plutôt la plaine des morts et là où il y a les tortues de Hermann. Donc,
c'est ça. Oui, alors voilà, c'est le critère absolu, c'est la vitesse. Tout le reste, tant pis. Les gares sont dans les betteraves, il faut prendre la voiture ou prendre le train. Vous ne pouvez pas prendre le train sans bagnole ou sans bus. Mais tout ça n'a pas d'importance. Il faut que ça aille vite. Maintenant, je vois la même chose en politique. J'ai été quand même stupéfait de la rapidité avec laquelle notre président a dégainé après la victoire d'Europe Écologie, puisque 2 jours après, il était déjà sur le front des énergies renouvelables.
À Chambéry, oui, sur le soleil.
Et oui, c'était 3 jours après, et il a dit cette chose extraordinaire, extraordinaire. Il a dit, on s'est trompé. On a cru que la solution aux émissions de gaz à effet de serre, c'était le nucléaire. Certes, le nucléaire a son importance, mais les énergies renouvelables sont extrêmement importantes et on a raté le tournant. Eh bien, lui, il n'a pas raté le tournant. J'ai trouvé cette réaction d'une vivacité extraordinaire. On va très, très vite, on dégaine vite en politique. Je me suis posé aussi une autre question, mais c'est une plaisanterie. Avant votre émission, à l'instant, j'ai entendu Maud Fontenoy. J'aime bien cette femme, elle a beaucoup de talent, elle a fait des choses remarquables. Mais je me suis posé cette toute simple question, comment fait-on pour devenir une super vedette de l'écologie en 6 mois? C'est extraordinaire aussi,
oui, ça. C'est la vitesse.
Elle est là partout, je la vois à tous les écrans. Je me dis, mon pauvre Jean-Marie, toi, t'as commencé en 1963, et il est temps que tu rends ton tablier. Moi, je suis tout à fait d'accord, Maud Fontenoy, de vous passer mon tablier et de prendre une retraite bien méritée. Et si vous me promenez en bateau sur la mer, moi qui aime beaucoup la mer, alors je vous aimerai encore plus.
Mais écoutez,
Tout ça va très vite.
Oui. Alors, vous nous faites, cher Jean-Marie, une transition parfaite, parce que nous avons quand même une belle navigatrice
aussi. C'est pour ça que je le dis.
Et j'ai bien compris.
Pour la stimuler, notre amie.
Notre Isabelle Autissier, donc, qui est là, qui passe quand
moi,
même.
Je ne serai pas ministre.
Non, on ne sera pas ministre. Non,
vous ne serez pas ministre.
Surtout pas.
Mais on pourrait imaginer 2 ministres de la mer, une pour les océans et une autre pour les mers fermées.
Oui.
Pas mal. Ce garçon n'est pas à court d'idées, vous voyez, Jean-Marie. Vous êtes très. Bon, vous restez avec nous, là.
Oui.
Bien sûr, il n'y a pas de raison.
C'est bien avec vous.
Bah oui, mais nous aussi.
Hein. Oui.
Nous aussi, c'est bien comme ça. Donc effectivement, là, nous sommes face à une femme qui a créé l'association École de la mer. Bon, on ne va pas rappeler tous les titres, genre, entre guillemets, de guerre de notre icône de la voile française, première femme autour du monde en solitaire, qui est Isabelle Autissier, qui fait quand même un peu de radio, on le rappelle, à 8h05, ce sera donc demain. Elle a commencé son papier, je tiens à vous le dire, donc il sera terminé tout à l'heure. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On vous retrouvera aussi, chère Isabelle, sur Story in Extremis. Tenez, vous êtes lancée dans le roman, vous n'êtes pas venue pour ça, mais Seule la mer s'en souviendra. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut tricher dans les courses autour du monde en solitaire.
Eh bien justement, non. Enfin, il y en a un qui essaye, mais ça va mal se passer parce que ça, c'est un truc qui va vous plaire, Denis, mais on ne peut pas tricher avec la nature. Ouais, bah oui. Parce qu'elle vous rattrape. Voilà. Et en plus, quand on est tout seul en mer et qu'on est, voilà, qu'on est à la fois face à soi et face à la nature, bah, la triche, elle ne va pas très loin. Donc, il va aller dans le mur, ce pauvre garçon, mais je ne vous raconte pas tout quand même.
Ah non, s'il vous plaît. En revanche, vous pouvez déjà nous raconter ce que vous avez fait un peu sur le Grenelle de la mer, parce que là, il y a des propositions qui sont arrivées. Vous faisiez partie donc, de ce Grenelle de la mer. Alors, on imagine bien qu'il y a eu des problèmes sur la pêche, la pollution des estuaires, le littoral, la montée des eaux. Qu'est-ce que vous avez un petit peu envie de dire par rapport à tous ces thèmes?
C'est devenu un verbe, greneller. On grenelle jour et nuit. Donc, j'ai grenellé pendant 2 mois. C'était passionnant. Et c'est quand même la première fois qu'on met tous les gens qui s'occupent de maritime autour de la même table. Donc, c'est pas mal déjà. Mm-hmm. Ça, c'est déjà une bonne idée. Surtout que tout le monde était assez plein d'énergie et de propositions. En gros, il y a une première chose extraordinaire, c'est qu'il y avait 4 groupes de travail sur des thèmes un peu différents. Moi, c'était littoral, il y avait haute mer, il y avait un peu tout ce qui était gouvernance, etc. Et tout le monde dit, première chose, on n'y connaît rien. Oui. On a besoin de connaissances. C'est compliqué, la mer. On ne connaît pas 1% des espèces qui y vivent. Et le littoral, c'est encore pire, parce que la rencontre entre les deux, entre la terre et la mer, c'est super compliqué. Donc, on a besoin de comprendre ce qui se passe, bah, parce que si on veut essayer de gérer les choses, ça, c'est presque un gros mot de dire ça, parce que je ne sais pas si on a fait ça très bien jusqu'à maintenant. Mais enfin, en tout cas, si on veut essayer de le faire un peu mieux, d'abord, on est obligé de savoir. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, nous, sur le groupe littoral, on a eu tout de suite ce qui est venu dans la réflexion, c'est qu'il faut arrêter de parler du littoral comme d'une façade. On n'est pas au théâtre, ce n'est pas coucou. Le littoral, c'est plutôt une espèce de grande charnière qui a ses papattes très longues de chaque côté pour que ça tienne bien, hein, une charnière. Donc d'un côté, on remonte les fleuves jusqu'en haut, jusqu'aux montagnes. Et de l'autre côté, on va jusqu'en haute mer, jusqu'à la limite pour nous de la zone économique exclusive. Parce que, vous le savez, 80% de la pollution aujourd'hui maritime, elle vient de la terre. Donc, si on ne part pas de là, et si on ne dit pas, à un moment donné, il faut organiser d'une manière ou d'une autre l'amont et l'aval,
la solidarité.
Très bien, merci. On n'a pas répété. Hein. Et ben, ça ne peut pas marcher. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Des fois, il faut peut-être aussi essayer d'arrêter d'être le cul sur la plage à regarder la mer. C'est très bien, mais on peut aussi faire le contraire. Être sur la mer et regarder la terre. Parce que ça vous donne une autre vision des choses, qui n'est pas toujours géniale d'ailleurs, hein, parce que quand on a des murs en béton, ce n'est pas terrible. Mais, je crois que là, il y a, après, quand on développe tout ça, quand on va creuser tout ça, il y a une autre grande idée, c'est que la mer est quand même un réservoir de biodiversité extraordinaire. Et que là, il faut qu'on y fasse gaffe parce que le jour où ça ira mal de ce côté-là, ça tardera pas à aller mal aussi un peu plus haut sur la Terre.
Et donc, il faut essayer, puisque cette société est quand même marchande, de lui donner aussi un prix. Donc, on a commencé à mettre un prix sur la tonne de carbone. On sait que sur la tonne de grenouilles jaunes, c'est un peu plus compliqué, sur la biodiversité. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est une manière de faire rentrer cette affaire-là dans l'économie, quitte à faire hurler certains écologistes. Mais peu importe, je veux dire que c'est aussi quelque chose qui commence à rentrer là-dedans, puisque ce fameux PIB... ne tient absolument pas compte de cela. Donc
oui, en fait, il faut bien voir que quand on parle de donner une valeur, c'est évidemment pas pour dire que la tonne d'oxygène de l'air a une valeur qu'on va pouvoir acheter et vendre, parce que là, je crois qu'on se trompe. C'est pour dire qu'à un moment donné, il faut effectivement arrêter de penser que c'est gratuit. Et surtout, non seulement que la ressource est gratuite, mais que la dégradation des choses de la biodiversité ou de la nature en général, c'est gratuit. Parce que si, par exemple, simplement, on essaye de se dire... combien il faudrait mettre d'argent pour rendre les rivières dans leur état originel d'eau pure, c'est-à-dire pour extraire non seulement les polluants les plus classiques, mais les polluants plus compliqués comme les PCB, comme les hormones, comme les rejets médicaux, etc. Tout d'un coup, on arrive à des sommes faramineuses. Donc tout d'un coup, on se rend compte que polluer, ça a une valeur, ça a un coût, en tout cas, qui est le coût de ce qu'il faudrait pour dépolluer. Donc là, à un moment donné, il va bien falloir faire rentrer ça dans l'équation, parce que comme le dit Paul, on est sur une planète finie, et donc on peut pas non plus espérer un renouvellement à l'infini.
Alors, Paul Virilio, justement, l'être humain a quand même énormément de qualités, je veux dire qu'on le sait, on n'est pas là pour pas se gratter pour se faire souffrir, mais il a aussi 2 légers défauts, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frein, il ne s'impose pas de limites dans un monde qui en a, et il court avant tout, dans ce monde occidental, après la satisfaction de ses besoins immédiats. Donc comment on va essayer de passer une espèce de, non pas de vitesse supérieure, mais de conscience supérieure?
En redonnant du temps au temps, là, je rappelle que l'appel des historiens à Blois l'année dernière, a été un moment important parce qu'ils sont très conscients qu'on est en train de remettre en question les longues durées. Si on prend le passé, il faut s'en repentir. C'est des catastrophes, c'est les croisades, l'Inquisition, la guerre de 14, la Shoah, etc. Autrement dit, le passé, c'est épouvantable. Il faut vraiment s'en repentir. Quant à l'avenir, il est limité, étant donné que la Terre est trop petite pour le progrès. Donc, il ne reste plus que le présent, et encore le présent instantané, celui de maintenant. Donc, moi, je crois qu'il faut reconstruire une histoire, ce que croient d'ailleurs les historiens des annales. Je pense à Braudel, à Marc Bloch, à tous ces grands bons hommes, et puis aussi aux historiens du temps présent, qui sont conscients de cet écrasement de l'histoire. Mmh. Là, c'est plus la Terre est trop petite, la géographie est trop petite, c'est que l'histoire est compressée par les phénomènes d'immédiateté, d'ubiquité, d'instantanéité. Donc, il faut redonner du temps au temps.
Mais nous, en tant que citoyens,
du tempo.
Comment on prend cette affaire-là quand on n'est pas historien, forcément?
J'avoue que j'ai aucun conseil à donner à mes semblables. J'ai assez de mal avec mes dissemblables.
Jean-Marie Pelt, je ne sais pas sur ce thème, peut-être, cher Jean-Marie.
Oui, moi, je viens de lire ce matin le rapport Stern. Alors, j'ai été quand même très, très frappé de lire que si l'on continue sur la lancée actuelle, avec nos énergies à base de combustibles fossiles, nous débouchons sur une situation qui créera un préjudice plus grand d'ici une trentaine d'années que les deux guerres mondiales et que la catastrophe de 1929 dans la première moitié du XXe siècle. Donc, il y a urgence à s'y prendre autrement et à s'y prendre autrement vite. Alors, comme cet éminent écologiste qui a travaillé pour M. Blair a décidé positif, il a expliqué qu'il
faudrait... Je rappelle juste, Jean-Marie, que Nicolas Stern est effectivement grand argentier, oui. Donc économiste avant toute chose.
Économiste.
Et que ces fameux rapports donc, n'émanent pas d'écologistes patentés. Puisque
économiste.
C'est, voilà, absolument. Mais vient aussi des réassureurs, donc ceux qui assurent les assurances et qui savent très bien...
effectivement.
Voilà.
Et alors il dit qu'il faudra prélever 1% du produit intérieur brut mondial pour diminuer d'une manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, mais ça coûtera beaucoup, beaucoup moins cher que si on laisse courir les choses, parce que là, on va droit dans le mur. Et moi, je crois, pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure, qu'on s'est trompé. On a commis une grave erreur. Depuis 30 ans, le maître mot, c'est ce qu'on appelle dans le langage... professionnels, les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, donc tous les engins, innombrables gadgets, engins qu'on utilise tous les jours, tous, autant que nous sommes, sauf M. Virilio et moi-même. On a mis à peu près 80% de la recherche mondiale sur ces engins et on n'a pas vu que la priorité, elle était dans le domaine de l'énergie et que c'était là qu'il fallait mettre le paquet pour diminuer au maximum les dégagements de gaz à effet de serre, parce qu'on sait que ces dégagements de gaz à effet de serre sont catastrophiques, et on le sait tout de même depuis 20 ans. Dans mon livre qui est paru en 90 et qui s'appelle « Le tour du monde en écologie », j'ai beaucoup insisté là-dessus, ça fait 20 ans. Donc des orientations fausses ont été prises, et il est urgent de modifier le tir, et je crois que tout ce qui touche aux énergies renouvelables doit être... une priorité tout à fait absolue si nous voulons durablement persister sur cette Terre qui est en effet trop petite pour notre agitation fébrile.
Mais ce sont
et
quand
le
même...
mouvement brownien dans lequel nous vivons.
Voilà, ce sont des options qui ont été absolument parfaites, en revanche, pour le marché, Jean-Marie.
Parce ça a bien marché.
Parce qu'en fait, moi, j'ai absolument un portable, je suis ravi de l'avoir, parce que ça peut aussi sauver des vies humaines. Enfin, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes là-dedans. Mais en fait, Paul Virilio, nos ingénieurs depuis 30 ans, pas tous, bien sûr, sûr, il y a ceux qui sont dans la recherche médicale, etc. On ne va pas les oublier. Mais leur boulot a consisté en fait à gagner du temps sur l'informatique, sur l'automobile, sur les routes, sur des trains, sur la logistique. C'était ça, c'était de raccourcir le temps, quoi.
Oui, c'est la technoscience. Il faut... Moi, je distingue toujours la science de la technoscience, c'est-à-dire la recherche d'une connaissance et la fabrication d'outils, d'instruments. On a atteint une limite, j'en ai parlé récemment, c'est la limite de l'expérimentation. On l'a vu par exemple avec le CERN, le collisionneur de Hadron de Genève. On atteint la limite des sciences expérimentales. Je rappelle qu'il n'y a pas de science exacte s'il n'y a pas expérimentation, c'est-à-dire vérification. Or, depuis Trinity Test, c'est-à-dire le lancement de du test de la bombe atomique qui va précéder Hiroshima et Nagasaki, on a franchi la limite. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit le collisionneur de Hadron ou autre, on est au bord de ne plus pouvoir expérimenter la science. Pas à cause de quoi ? Par le succès même de la science. La science ne pourra plus être expérimentée parce qu'elle a atteint les limites de l'expérimentation.
Ce que vous voulez, c'est qu'il faudrait...
C'est-à-dire la destruction du monde, ce qui était déjà en cause au Trinity Test. Quand Oppenheimer met le bouton pour faire péter le test, le premier test à Los Alamos, il dit on a sans doute commis un péché scientifique parce qu'on ne savait pas où ça s'arrêtait. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un phénomène de bulle de feu. Or, pour le Hadron, on a parlé d'un trou noir. C'est pas moi, c'est les physiciens ont posé la question de l'expérimentation du grand collisionneur en disant « Vous risquez un trou noir ». Des physiciens, ils ont même fait un procès. Otto Rössler, le spécialiste du chaos, a fait aussi un procès.
Donc on va espérer quand même qu'il y aura un peu
d'intelligence. Là, il y a une question.
Oui, ben oui.
Grande question philosophique.
On va essayer quand même de penser qu'on va avoir un peu d'intelligence collective par rapport à ces problèmes-là. On se retrouve dans quelques instants et puis on va aussi parler d'une association Écomère et toujours avec nos invités. Donc vous le savez, Jean-Marie Pelt, Paul Virillo, David Beaulieu, Isabelle Autissier après Kansas.
Oui, c'est bien votre histoire d'environnement, là. Continuez à environner, nous, on sera toujours contentes.
Ah ben venez, on vous suit, vous savez, on est prêts à vous pousser au derrière.
Hein. Et vive l'environnement, allez-y,
oui,
hop,
allez,
là.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind.
Dust in the Wind sur France Inter. C'était donc le groupe Kansas. Je vous le rappelle, nous sommes en direct de La Rochelle pour donc le salon Terre et Lettres. Et on remercie les organisateurs et Trice Dominicaniel, Marie-Noël Rimaud et David Beaulieu, qui est aussi donc, l'âme de l'association qui s'appelle Écomère. Peut-être d'abord, petite réflexion, David, par rapport à ce que vous avez entendu.
Eh bien, en écoutant Paul, je me disais qu'il serait intéressant peut-être de redévelopper des transports doux, mais par bateau. Et si demain, on a envie d'aller en Afrique, par exemple, j'ai envie d'aller en Casamance, eh bien, pourquoi je suis obligé de prendre un avion ? Étant donné qu'on va être de plus en plus peut-être soumis à des périodes de chômage, plus ou moins longues, ou des périodes de crise, pourquoi on serait obligé de prendre un avion alors qu'on pourrait imaginer prendre un bateau et prendre le temps de faire les choses ? C'est peut-être ça qui nous manque, puisque Paul parle de vitesse. Reprenons le temps, donc, dans nos déplacements, et le bateau est peut-être une solution. Mais bientôt électro-solaire ou autre, mais voilà, ça m'a fait réagir là-dessus.
Et alors donc vous militez pour la propreté du milieu marin, hein, c'est vraiment le but de l'association Écomère, réduction des déchets à la source. Alors vous êtes véritablement sur le terrain. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait ce qui s'était fait donc à La Rochelle, bon, qui est une ville effectivement assez exemplaire. D'un autre côté, on va rappeler que le tri sélectif, je crois que c'est seulement l'an passé que c'est arrivé dans cette histoire-là, hein, Isabelle.
Dans le centre-ville.
Dans le centre-ville, pardonnez-moi, oui, effectivement. Donc on a quand même pris un petit peu de temps. J'ai vu que vous aviez fait aussi, alors je ne sais pas si c'est encore cette année, mais un Grand Prix de France de Formule 1 motonautique.
Hein, mais ça, c'est pas une excellente idée.
Très mauvaise idée. On voit la gavie d'argent public, là aussi, c'est pas
voilà. Et puis, vous avez un très joli parking en train de se construire là sur le port aussi. Donc, ça va être aussi un aspirateur à voiture. Enfin, ça va. Voilà. Donc, enfin, bon, on a tous effectivement nos merveilleuses contradictions. Mais à côté de ça, livraison des marchandises en ville aussi, voiture en temps partagé. On va saluer quand même Michel Crépeau parce que c'est quand même un homme qui avait une vision et puis qui a lancé donc les premiers vélos en libre-service. Alors, il n'y avait pas de caution, il n'y avait pas de cadenas, ce qui fait qu'on les a. Ils sont un peu dans la nature. Alors, maintenant, c'est un peu calmé quand même. On s'est dit, on va prendre quelques précautions. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la mer, de votre côté ?
Donc nous, on essaye, au niveau de l'association, d'être pragmatique et d'apporter des solutions concrètes. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand on a voulu mettre en place, par exemple, des alternatives aux pesticides, on est allé voir les communes et au début, les communes n'étaient pas très, très réactives. Il a suffi qu'une commune se mette en œuvre, notamment la commune des Nandes, et à partir de là, on a eu une réactivité beaucoup plus importante. Donc en fait, à chaque fois, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est vraiment une action concrète de terrain avec une collectivité, quelle qu'elle soit, et à partir de là, la décliner ailleurs, sur d'autres territoires. Donc par exemple, quand on travaille sur le port de La Rochelle, on prend notre expérience des travaux qu'on mène et on le décline après sur les ports de Charente-Maritime et bien ailleurs aussi. Donc en fait, c'est montrer l'exemplarité des choses qu'on peut faire, même très simple. Hein. On n'a pas besoin de mettre justement beaucoup d'argent dans des choses très simples. Enfin, Isabelle, j'imagine que pendant le Grenelle de la mer, vous avez abordé ce sujet-là. Pourquoi, quand on lave des bateaux, on est obligé d'utiliser des produits qui vont avoir un impact sur le milieu aquatique ? C'est stupide. On devrait que ce soit la marine marchande, que ce soit tout utilisateur de produits nettoyants pour nettoyer son bateau devrait vraiment avoir un produit qui n'est pas agressif pour l'océan, enfin pour le littoral en tout cas. Il y a 100 ans, on avait une biodiversité énorme dans les pertuis juste à côté. On s'aperçoit qu'en 100 ans, on a quasiment tout a disparu. Enfin, pas tout, mais une grosse partie. Donc ça veut dire qu'il y a la pollution, il y a la pression de l'homme, il y a la surpêche, mais 100 ans, c'est court. Donc je ne sais pas, Isabelle, tu veux réagir ?
Oui, moi je veux réagir parce que je trouve que ce que fait Écomère et ce que font beaucoup d'associations en France, ça répond exactement à la question que pose tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en gros, grosso modo, il y a quand même pas mal d'entre nous qui commençons à être conscients qu'on va dans le mur à grande vitesse et que, en gros, sans vouloir être trop pessimiste, ça finit par quoi ? Ça finit par la guerre, parce que quand il n'y a plus assez pour les uns et les autres, on se tape dessus. C'est pas l'idéal et on a envie, on commence tous à avoir envie que ça change. Et puis des fois, on est un peu découragé, on se dit face à cette montagne de choses, qu'est-ce que je peux faire moi tout seul ? C'est ce que fait David et son association, c'est qu'ils font. Et comment ça marche ? Je trouve que le côté exemplarité, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on fait quelque part et on montre que c'est possible. Quand tout le monde vous dit « ça ne marchera jamais », on montre que ça marche. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a d'autres gens qui rentrent dans la boucle.
Je fais parce que tu fais, parce que nous faisons, valeur d'exemplarité. Et là, on y va et c'est très stimulant quand même.
Ouais, ouais, je crois que c'est essentiel. Je pense qu'il faut tous, à un moment donné, peut-être qu'on essaye, voilà, notre bonne action, hein, comme quand on était petit, qu'on essaye d'être exemplaire sur un truc et puis qu'on le fasse savoir. Et alors, à partir de là, les choses peuvent commencer à se diffuser.
Oui, d'abord, c'est payant. Il faut aussi, j'allais dire, aider nos élus. C'est-à-dire que, comme ça ne vient pas forcément d'eux, c'est-à-dire que c'est aussi à nous, en tant que citoyens, d'aller leur dire, attendez, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage aussi entre le temps politique et aussi le temps du citoyen qui va un peu plus rapidement peut-être sur ses affaires environnementales.
Oui, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'a dit Paul aussi, c'est cette histoire de décalage de temps. Effectivement, on a plein de temps à gérer et notre problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Oui. Par exemple, on n'arrive plus à gérer, comme on va nous de plus en plus vite, ce qui est le temps de la nature. Je veux dire, le 21 juin reviendra tous les ans. Normalement, on n'arrivera pas à le faire aller plus vite, même si peut-être ça nous arrangerait, parce que comme ça, on ferait des vacances plus tôt et puis on pourrait récupérer plus tôt les soudes, etc. Ben non, ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Les poissons dans la mer, il leur faut un certain temps pour grandir. Et voilà. Et comme nous, on va de plus en plus vite, on est de plus en plus gênés aux entournures par le temps de cette nature et que finalement, on a envie de dire, mais ça nous convient plus. Ben oui, mais c'est ça, on n'y peut rien. C'est là-dedans qu'on est et c'est là-dedans qu'il faut qu'on existe. Donc je crois que ce décalage de temps, c'est vraiment le fondement de un des fondements de la crise écologique.
Et c'est là, Jean-Marie Pelt, effectivement, votre travail que vous effectuez depuis de très très nombreuses années, c'est-à-dire que vous avez toujours essayé de ravauder donc ce lien entre l'homme et la nature, quoi, de rappeler que l'on n'est pas des individus qui sommes totalement hors sol et que on fait justement avec cette nature, on a fait contre elle pendant très longtemps, mais que ce 21e siècle sera écologique parce qu'il faudra faire avec elle, il faudra d'ailleurs la faire travailler pour nous, que ce soit les sols, les mers, les rivières, les forêts, etc., elles nous apportent des bienfaits absolument incroyables.
Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les services rendus par la nature. C'est une notion tout à fait nouvelle, qui est une notion intéressante, parce que jusqu'il y a quelques décennies, on n'imaginait pas que les biens de la nature soient limités. On pensait que, dans son immense bonté, le Créateur avait créé en surabondance tout ce dont nous aurions besoin, assez de poissons, assez d'animaux, assez de plantes, etc.
Pas le Créateur ou autre chose, enfin, oui, d'accord.
Oui, d'accord, oui. ou le non-Créateur. Mais voilà que maintenant, on s'aperçoit qu'on est dans les limites. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Il a fallu 40 ans à l'écologie pour maintenant que cette idée soit bien présente. Elle est bien présente. La plupart des gens ont compris. Maintenant, on sait. Tout ça, c'est neuf, ça remonte à 3, 4, 5 ans, pas plus. Et donc, nous sommes maintenant à pied d'œuvre pour aller dans la bonne direction, vite. Parce que le vite, pour le coup, là, est nécessaire. S'il y a un domaine où le vite est nécessaire, c'est de changer les priorités et d'aller dans les directions qui peuvent nous éviter de rentrer dans le mur. Alors, cette nouvelle alliance avec la nature... se construit parce que la prise de conscience se fait et puis on découvre alors des choses qu'on ne savait pas du tout, qu'un marécage c'est extrêmement utile, que ça purifie l'eau, que ça régule les crues, que ça permet d'éviter les étiages trop bas. Alors qu'il y a encore 50 ans, un marécage, il fallait absolument le transformer en pâturage et le faire disparaître. Je prends cet exemple parce que j'avais sous la main ce matin. Mais on pourrait multiplier à l'infini les exemples. Et alors on s'aperçoit que sans la nature, nous n'existons pas. Notre corps, c'est la nature. Nous avons besoin de la nature, c'est-à-dire pour manger, pour respirer, pour avoir de l'eau, etc. Et cette solidarité dont nous prenons conscience, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce qui me paraît très important, c'est que c'est une valeur qui s'impose maintenant. Dans cette humanité qui va dans tous les sens, dans la plus grande confusion, dans la plus grande profusion des idées, du mélange de tout se vaut, où une vache ne reconnaît plus son veau, voilà-t-il pas que nous avons tous ensemble des objectifs communs à atteindre, et ceci doit nous rapprocher, augmenter entre nous la convivialité, que malheureusement, la technologie diminue, parce que je le dis souvent, plus on communique avec des engins, moins on communie avec le cœur. Et je crois que nous avons besoin de réinjecter une très forte dose d'humanisme dans le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est un monde qui est devenu sec et froid. comme je l'ai expérimenté récemment.
Alors justement, une femme comme Isabelle Autissier avec son association École de la Mer, bah, essaye elle aussi de faire ce travail de fond, d'expliquer, parce que quand on dit très souvent les uns les autres, notre société va dans le mur, il faut comprendre qu'il y a une réalité qui est physique, qui est ce qu'on appelle les effets de seuil, et qu'il y a effectivement un point de bascule. Oui. Alors ces points de bascule, on ne sait pas encore exactement quand ça va avoir lieu, mais on voit très bien qu'avec à la fois le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, c'est pas très enthousiasmant de dire ça, mais on a déjà signé notre climat, celui de nos enfants. On peut encore, en revanche, effectivement, arriver à changer, à faire bouger celui de nos petits-enfants. Vous apprenez ça, vous, Isabelle, effectivement, comment vous faites ?
Oui, ben, c'est vrai que l'École de la Mer, c'est une association, on va dire, rochelaise et régionale. On a quand même, on voit passer quand même 15 000 gamins par an.
Ah, donc,
voilà, donc on peut dire des choses. Entre autres, oui, quand on parle de ces questions d'écologie, moi, j'aime bien parler de ça, justement, de l'effet de seuil. C'est-à-dire que c'est comme le type qui saute depuis le 13e étage, hein, jusqu'à maintenant tout va bien. Et on sait très bien, en tout cas en termes de phénomène physique, que si vous prenez l'eau et que vous descendez la température de l'eau, quand vous arrivez à 0,001 degré, l'eau elle est encore liquide. Et puis quand vous passez à zéro, poum, ça y est, ça gèle. Et la Terre, elle est pleine d'équilibres comme ça. Elle est pleine de moments où les choses, tout d'un coup, s'orientent, on va dire, autrement. Donc c'est un peu ça notre problème aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui ça va pas si mal, hein. On va dire que peut-être la mer monte de quelques millimètres et puis il fait peut-être un petit peu plus chaud, mais enfin globalement on est encore dans le cadre. On va
et dire. Les gens d'ailleurs dans le Grenelle de la mer, vous l'avez très bien vu, ne sont pas du tout prêts à accepter donc le recul, c'est-à-dire
ça c'est un grand débat qu'on a posé dans le Grenelle de la mer, par exemple, c'est comment on va organiser le recul, parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, si tout va bien, il sera encore vivant en 2100. Oui. Donc en 2100, la mer aura monté. Alors on en est, ça augmente tous les jours malheureusement avec le GIEC. On en est à 80 cm, 1 mètre. Vous prenez la carte de France, vous dessinez 1 mètre de moins. Mmh. Déjà, ça a une drôle de gueule.
Et vous prenez des photos des Sainte-Marie de la Mer vite fait. Là.
Voilà. Vous imaginez en plus que l'eau de mer va envahir les nappes, va repousser l'eau douce plus haut et tout ça. Et on ne va pas construire le mur de l'Atlantique pour se protéger. Il va bien falloir, par exemple, commencer à réfléchir tout de suite parce que ça va être super compliqué à organiser. Comment on va reculer ? Nous les hommes, il y a des endroits où on va se barricader, il y a des endroits où il faudra lâcher. Non seulement comment nous on va reculer, mais comment la nature elle va pouvoir reculer. Parce qu'il faudra bien, que les plages, que les marais, que tout ça aient la place un peu derrière pour continuer à vivre. Donc par exemple, c'est une projection là aussi dans le temps qui est pas évidente à faire, quoi. Et là aussi, on se dit, bon bah... On va bien voir, hein. Ça monte pas vite, on va attendre.
Paul Virillo, juste un petit mot effectivement de la fin, parce que parfois on peut vous qualifier de catastrophiste et de pessimiste. Il y a une phrase que vous aimez bien, Churchill, vous la faites vôtre, vous dites « Un optimiste est quelqu'un qui voit une chance derrière chaque calamité ».
Exactement, je trouve que c'est une phrase formidable, d'ailleurs il a gagné la guerre. C'est une phrase qui a gagné la guerre.
Donc on peut gagner celle qui se présente. Voilà.
On peut le dire, exactement. Oui. Et je voulais dire tout à l'heure que je ne suis pas pape, je ne viens pas d'être intronisé, mais il y a une phrase que j'ai obligé de répéter, c'est « n'ayez pas peur ».
Voilà.
Parce que quand Jean-Paul II dit ça, c'est l'équilibre de la terreur. Je l'ai connu. Il y a Atomic Café, il y a le Watkins, la bombe, qui viennent de sortir. C'est le moment où on est au bord d'un clash, etc.
Non, mais un truc un peu positif.
Justement, voilà. Voilà quelqu'un qui arrive, qui lui dit « n'ayez pas peur ». Moi, aujourd'hui, je suis obligé de dire la même chose. Surtout, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que derrière l'écologie, il y a aussi une menace. Et oui, la menace d'une nouvelle tyrannie. Hein ? Chez les nazis, ça s'appelait le Lebensraum.
Bon, ça va, on va terminer fort.
L'espace vital. Et c'était leur façon de gouverner par la peur. Bon, alors... Donc les écologistes ne gouverneront pas par la peur.
Bon, ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, je ne pense pas qu'on soit menacé de ça quand même totalement en France aujourd'hui. Merci à vous, cher Paul Virillo. Merci, chère Isabelle Autissier. On vous retrouve demain sur France Inter, Eric Beaulieu, à tous nos amis. Et puis, on va donc remercier aussi Michel Gazic et Yves Lehorse et Didier Pousse à la technique aujourd'hui. Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza, Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Et notre cyberdocumentaliste a nourri le site de CO2 Mon Amour. Elle s'appelle Anne Gouzon.
La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison qui sera très nature, car avec Jean-Marie Pelt, nous irons en Amérique du Sud. On le remercie, hein, Jean-Marie. Oui, on ne vous a pas oublié, cher Jean-Marie.
Non, mais je n'ai pas eu d'inquiétude.
Je ne vous inquiétais pas, donc non, tout va bien. C'est parfait. Okay.
Moi, je remercie les participants, c'était intéressant.
Bonne journée avec vous, donc, en Moselle. Nous irons aussi découvrir la semaine prochaine une forêt en montagne en Haute-Maurienne. Et puis, bah, tenez, on ira à l'abbaye de Tamier, parce qu'il s'occupe aussi de prières, certes, mais d'énergie renouvelable. Denis Chessou, je vous souhaite à La Rochelle et un peu partout en France une excellente journée. Au revoir et merci à tous.